L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Je voulais simplement vous apporter une parole d'encouragement que j'ai sur le cœur. Et tout au long de cette semaine et déjà la semaine passée, je sentais dans mon esprit que Satan envoyait un esprit de découragement et d'abattement sur les enfants de Dieu, en tout cas de cette maison. Et peut-être certains aujourd'hui, là, vous êtes dans la présence de Dieu et vous louez, vous essayez d'oublier, vous essayez de sortir de ce découragement. Mais je sais que c'est un mauvais esprit qui oppresse, que Satan a envoyé. Pourquoi ? La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais et méchants dans les lieux célestes. Et peut-être que vous êtes là et vous ne réalisez pas que dans l'invisible, en fait, ce que vous ressentez dans le visible, c'est le fruit d'une action d'un mauvais esprit derrière. Et quand je parle d'esprit d'oppression dans l'Église, pourquoi je dis cela ? Parce que ça ne touche pas qu'une personne, mais ça touche plusieurs personnes, un grand nombre de personnes. Et Dieu le voit, et j'aimerais simplement vous encourager. Ce matin, en vous donnant cette illustration que j'ai sur le cœur, vous savez, dans les années 1865, le président Abraham Lincoln a lutté toute sa vie pendant son mandat pour l'abolition de l'esclavage. Et les Noirs aux États-Unis étaient vraiment oppressés de toutes parts par les Blancs. Ils étaient esclaves, ils étaient exploités, ils étaient maltraités. Et ici, on voit l'image de l'Église de Jésus-Christ qui est attaquée par le diable, par toutes sortes de maladies, par toutes sortes de problèmes relationnels, par toutes sortes de dépressions, par toutes sortes de problèmes de couple, par toutes sortes de problèmes financiers. On voit l'action du diable sur l'Église. Et Jésus a déclaré il y a 2000 ans, au travers de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, il nous a libérés de toute malédiction, il nous a rendus libres. Et en 1865, après la mort d'Abraham Lincoln, il y a eu quelques mois plus tard un amendement qui est sorti aux États-Unis dans la loi où le gouvernement américain déclarait pour la première fois de l'histoire les Noirs américains avaient le droit de vote aussi bien que les Blancs, et les Noirs étaient égaux aux Blancs, et les Noirs étaient enfin libres. Et malgré ce décret, il a fallu plus de 100 ans pour que les Noirs soient réellement libres. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où le décret a été annoncé et le moment où les Noirs ont été réellement libres ? Il s'est passé 100 ans encore de servitude, 100 ans d'esclavage. Frères et sœurs, là où je veux en venir, c'est qu'au moment où les Noirs, alors que la loi était donnée, alors que le gouvernement avait déclaré qu'ils étaient libres, et c'était la vérité, qu'ils étaient réellement libres, ils ont continué à être exploités par les Blancs continuent à exploiter leur naïveté. Non, vous n'êtes pas libres. Les Blancs continuent à les oppresser, les Blancs continuent à les utiliser dans les exploitations de coton, parce que les Noirs ne savaient pas encore, les esclaves ne savaient pas encore qu'ils étaient libres. Ils n'avaient pas conscience de l'héritage qui leur appartenait, de ce qui était à eux, et ils ne prenaient pas position. Et quand un Blanc venait et il les oppressait, ils se soumettaient, ils sont restés esclaves pendant 100 ans, jusqu'au moment où des leaders se sont levés et ils ont dit: ce n'est pas normal, le gouvernement a déclaré il y a 100 ans que nous sommes libres, le gouvernement a déclaré que nous avons le droit de vote, le gouvernement a déclaré que nous sommes totalement libres et nous sommes égaux aux Blancs. Alors les Noirs ont commencé à se tenir fermes. Et quand les Blancs venaient pour les exploiter, ils disaient: non, ce n'est pas normal. Et ils avaient derrière eux tout le poids de la vérité, tout le poids du gouvernement, tout le poids des États-Unis qui avaient dit: vous êtes égaux. Frères et sœurs, il y a 2000 ans, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous dire, c'est que Jésus a déclaré que nous sommes plus que vainqueurs en lui, que Satan a été dépouillé de son œuvre à la croix, que nous sommes libres, libres, et que nous avons toute autorité sur les puissances des ténèbres. Alors peut-être dans ta vie, il y a des choses douloureuses. Peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui font mal. Peut-être que dans ta vie, il y a des choses que tu ne comprends pas. Satan est venu et il t'a frappé. Satan est venu et il t'a intimidé. Mais ce qu'il faut faire, c'est se tenir ferme face à lui. Se tenir ferme sur quoi ? Sur la parole. Parce que la Bible dit: résistez au diable d'une foi ferme et il s'en ira. Et ce matin, Dieu veut vous encourager, frères et sœurs. Tenez-vous ferme face à la parole de Dieu. Tenez-vous debout face à elle. Et résistez. Satan n'a pas de pouvoir.
relève ta tête. Dieu, relève ta tête ce matin à cause de sa parole par les meurtrissures de Jésus. J'ai été guéri, j'ai été libéré. Satan, peu importe les symptômes, Satan, peu importe ce que je vois, je suis libre. Tu n'as pas de pouvoir sur moi et j'avance, j'avance. Alors à ce moment, quand tu te tiens ferme sur l'esprit de découragement, quand tu te tiens ferme sur la parole de Dieu, en dépit de ce que tu vois et de ce que tu entends, Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi. Ses traits enflammés sont anéantis. Ils te touchent et ils sont détruits au moment où ils te touchent, parce qu'il y a une vie supérieure en toi, la vie de la parole de Dieu, la vie de la promesse de Dieu. Et celui qui a promis ne tardera pas à accomplir sa promesse dans ta vie. Oh, s'il y a quelqu'un ce matin qui croit cette parole, frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui croit en cette parole, lève ta voix et loue ton Dieu. Acclame-le, 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 acclame-le. Oui, Satan n'a pas de pouvoir. Oh, le Seigneur relève ta tête. Alléluia.
J'aimerais qu'on puisse montrer la partie, le couplet d'après, où ça dit que nous allons aller.
Nous irons où tu nous envoies.
Nous irons, ouais, c'est ça, ouais. On a chanté, nous irons où tu nous envoies. Nous répondrons à ton appel. Tu nous conduis dans le sentier de la vie. Et c'est notre prière, c'est notre désir que le Seigneur nous conduise sur ce sentier de la vie. Et pasteur Michael a parlé de ces gens découragés qui peuvent trouver la vie en Jésus-Christ. Et si le Seigneur veut, nous veut dans la vie et dans la paix, s'il nous veut dans la joie, c'est parce qu'il nous aime, mais c'est aussi parce qu'il a un plan pour nous. Et le sentier de la vie, parfois on a l'impression que c'est un sentier égoïste, mais sur ce sentier de la vie, on a quelque chose à faire. Et la Bible dit dans Luc au chapitre 10, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Vous voyez, il y a trois personnes qui sont passés sur ce sentier de vie. Trois hommes qui ont marché sur le sentier de vie. La Bible nous dit que le premier de ces hommes était un pharisien, un sacrificateur. C'était un homme de la parole. Et la Bible dit qu'il est passé par hasard par là. Vous savez, les miracles, ce sont des choses qui arrivent quand nous ne les avions pas prévues. Par hasard. Nous nous retrouvons sur ce sentier de la vie, sur le sentier où nous nous trouvons jour après jour, et par hasard, nous croisons quelqu'un dans le besoin. Par hasard, nous voyons une personne vers laquelle notre esprit nous pousse à lui parler, nous pousse à se tourner vers elle, nous pousse à prier pour elle. C'est par hasard que nous nous trouvons là. Et la Bible dit que cet homme de la parole, il a passé outre. Et le Lévite, qui était un homme de louange, un homme qui aime Dieu, un homme qui passe du temps dans l'adoration, dans la louange, il a vu cette même personne et à nouveau il est passé outre. Mais la Bible dit qu'un Samaritain, passait par là et il s'approcha. À cause de sa compassion, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Sur ce chemin de la vie, sur ce sentier de la vie, Dieu nous appelle à répondre à son appel et à aller là où il nous envoie. Et ce Samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, si je veux voir la gloire de Dieu, j'ai besoin, nous avons besoin de nous approcher. De nous approcher de quelqu'un. Être disciple de Jésus, c'est s'approcher de quelqu'un. C'est en avoir compassion. Et cet homme, il a bandé ses plaies, il a versé sur lui de l'huile et du vin. Et l'huile, c'est le symbole de la présence de Dieu, mais c'est aussi le symbole de la prière. Dieu a mis des gens à vos côtés et Dieu mettra des gens sur votre chemin. Par hasard, vous les croiserez. Dieu ne va pas forcément faire apparaître un ange pour vous dire « Regarde telle personne !» quand vous vous trouvez dans un magasin ou dans la rue et vous dire « Tiens, c'est lui !» et crier à vos oreilles. Mais dans votre esprit, ou tout simplement avec votre vue, vous allez le voir. Et celui qui va faire la différence, le Samaritain, c'est celui qui va s'approcher. Et ce symbole de l'huile, c'est le symbole de la prière. Dieu a mis des gens autour de vous qui ne sont pas encore sauvés, des gens qui souffrent cruellement, des gens qui sont découragés. Nous pouvons être découragés, mais l'apôtre Paul a dit, les gens disent que nous sommes découragés ou abattus, mais nous ne sommes pas désemparés, parce que nous avons la vie en Jésus-Christ. Mais les gens dans le monde sont découragés, et sans Jésus, ils n'ont pas d'espoir. Et Dieu vous appelle à prier pour eux. Versez de l'huile sur ces gens. Versez de l'huile dans vos maisons. Priez pour ces gens. Priez avec sincérité, avec vérité. Priez réellement, jusqu'au bout. Et versez du vin aussi. Le vin, ça purifie. Le vin, ça nettoie. Et ça nous montre qu'à la fois, on a besoin de prier et on s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose. Mais à la fois, on a aussi besoin de déverser de nous-mêmes. On a besoin, comme Jésus à Gethsémané, de faire couler, entre guillemets, le sang de nos fronts. Tellement on prie, tellement on recherche le bien de cette personne. Dieu nous appelle en tant qu'Église à ne pas être comme le pharisien, le sacrificateur et le lévite, mais à être des gens tout simples, comme ce Samaritain, qui s'est approché de la personne dans le besoin, qui a bandé ses plaies. Il a prié en versant de l'huile. Il a aussi versé du vin pour le nettoyer. Et ça montre la profondeur de sa prière. Et la Bible dit qu'il l'a amené dans une hôtellerie et le lendemain, il sortit 2 deniers. S'approcher de quelqu'un, ça va vous coûter. Ça va vous coûter du temps. Ça va vous coûter de l'argent. Ça va vous coûter des sentiments. Ça va vous coûter des prières. Et alors que nous disons au Seigneur cette belle prière, cette belle déclaration, Seigneur, nous irons où tu nous envoies. Jésus a dit, voici, je vous envoie dans le monde. Vous êtes la lumière du monde. Et une lumière, une lampe, ne peut pas rester cachée sous le lit. Mais il faut qu'elle éclaire toute la maison. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu. Et ne négligeons pas le talent que Dieu nous a donné en le cachant dans la terre. Mais cette semaine, disons au Seigneur, cette semaine, j'irai où tu m'envoies. Cette semaine, je ne laisserai pas cet homme qui a besoin désespérément de toi seul, mais je m'approcherai de lui. Le miraculeux vient lorsqu'on s'approche des gens, lorsqu'on commence à verser de l'huile et du vin sur ces gens, en les aimant. Et Jésus dira que si nous ne remplissons pas notre tâche, nous sommes bons à une seule chose, c'est à être brûlés par le feu. Vous voyez ici, il y a une bûche. À quoi est-elle bonne ? Juste à être brûlée par le feu. Elle ne pourra plus porter du fruit parce qu'elle est sèche. Et Dieu nous appelle non pas à être sec, mais à être plein de vie et à porter du fruit. Et nous pourrons rester longtemps à l'église et longtemps à faire de belles déclarations au Seigneur. Mais si nous restons secs, nous sommes inutiles à Dieu et inutiles aux hommes. Et voilà pourquoi que même dans cet esprit de découragement, si nous portons nos regards vers l'homme abattu et les yeux fixés sur Jésus-Christ, le Seigneur nous fera couronner de louanges, de paix et de gloire, parce que nous ne sommes pas des bois secs. Nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur et à poser des actions véritables pour ce monde. Dieu nous appelle en tant qu'Église à cela. C'est très concret, c'est très pratique. Et je veux simplement terminer en priant, Père, je te remercie pour ta parole. Merci parce que tu nous appelles à des œuvres bonnes et pratiques, à nous approcher de ceux qui sont dans le besoin. Et Père, en tant qu'un des pasteurs de cette église, je veux prier comme une seule voix pour cette église. Nous irons là où tu nous envoies. Nous prierons pour les délaissés, pour les méprisés et pour ceux qui sont fatigués et oppressés par la vie. Et merci pour le Saint-Esprit, parce que c'est un esprit de force, un esprit de victoire et un esprit de gloire. Et voilà pourquoi nous pouvons nous écrier louange à toi. Gloire à toi, parce que tu nous envoies sur ce chemin pour que nous puissions porter du fruit et vivre dans cette joie du serviteur de Dieu. Père, merci.
Donc, on est dans une série présentement sur le royaume de Dieu, des lois du royaume. Et aujourd'hui, je vais vous partager un sujet vraiment important concernant le cercle privilégié. Donc, le cercle privilégié de Dieu. Quand on parle d'un cercle de privilèges, par exemple, peut-être vous avez toutes sortes d'idées. Mais ce qu'on va voir ensemble ici, c'est qu'il y a un cercle préparé pour vous par Dieu, un cercle de privilèges, un cercle de la faveur divine pour vos vies. Ceci dit, c'est important de découvrir les lois spirituelles de Dieu, les lois du royaume de Dieu, pour opérer selon le royaume de Dieu, parce que si nous essayons d'opérer selon les lois de ce monde, on va passer à côté et on va être frustré. Il y a quelqu'un qui m'a déjà posé la question. En tout cas, la personne est venue me voir puis me disait, mais comment t'as fait, toi, pour expérimenter la faveur dans ta vie? Comment est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as mis en place dans ta vie pour recevoir les privilèges que t'as vécu dans ta vie? Et puis, on peut avoir toutes sortes de réponses, mais ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est très, très simple. Il y a déjà une personne qui me disait, pour avoir la faveur dans ta vie, tu dois donner la main à une personne comme ça, mais après, tu rajoutes ta main par-dessus. Comme ça, là, la personne va vraiment t'aimer. Mais ça, c'est des principes humains. C'est des principes humains. Et quand j'ai entendu ça, c'était comme répugnant pour moi. Parce que ça, on appelle ça en fait de la manipulation. On veut essayer de manipuler les gens pour avoir de la faveur. Et ça l'attriste le cœur de Dieu. Ce que Dieu aime, c'est un cœur sincère devant Dieu. Un cœur qui aime Dieu et puis qui est là pas pour manipuler les gens, mais simplement pour être un porte-parole pour Dieu puis un bon représentant pour lui. Donc, vous êtes avec moi dans Luc chapitre 8 et le verset 4. Là, ce matin, même avant de lire la parole de Dieu, je vais vous faire déclarer ici que c'est l'heure, aujourd'hui, l'heure du changement de mes mentalités. Êtes-vous prêts?
Oui.
Répétez après moi. Aujourd'hui,
je change
de mentalité.
Amen.
Gloire à Dieu. Cette année 2015, nous avons déclaré que c'est l'année de la porte ouverte. Une porte s'ouvre devant nous. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est une porte de faveur pour ceux qui veulent marcher avec Jésus cette année. Gloire à Dieu. La faveur est toujours en Christ. C'est impossible. Mais il y a également des saisons spirituelles où nous ressentons vraiment la présence de Dieu et la faveur de Dieu pour accomplir les œuvres de Dieu. Et 2015, c'est justement cette année de gloire. Et moi, je dis amen lorsque j'ai reçu cette parole dans mon cœur. Et quand j'ai lu par après plusieurs prophéties également concernant ce que Dieu est en train de communiquer à l'Église. Ici, je parle à l'Église avec un grand E, que vraiment, c'est une saison de la porte ouverte pour l'Évangile, pour la proclamation de l'Évangile. Et on dit gloire à Dieu, et non seulement on va sortir de l'Église, et on va franchir cette porte pour aller chercher les gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, mais en même temps, il y a des personnes qui vont passer par la porte et entrer dans le royaume de Dieu également. Et c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Et les prières que vous avez priées et les semences que vous avez semées, bien, c'est l'heure de la récolte. Amen. Gloire à Dieu. Allons maintenant dans Luc 8, verset 4. Je vais vous lire dans la Bible du Semeur, il est écrit « Une grande foule ayant afflué de chaque ville s'était rassemblée autour de lui en parlant de Jésus. Alors Jésus leur raconta cette parabole. » On va aller immédiatement au verset 9. Le but ce matin, c'est pas de lire la parabole en question, mais c'est de souligner un fait. Donc au verset 4, on a vu une grande foule. Au verset 9 maintenant, « Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. » Verset 10, il leur dit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, pour la foule, ces choses sont dites en paraboles. » Pouvez-vous imaginer, si vous étiez un disciple du Seigneur Jésus, un des 12 apôtres, si vous marchiez avec Jésus, Croyez-vous que vous auriez droit à certains privilèges en tant que son apôtre? Oui, certainement, il y avait un privilège. Jésus avait son cercle d'amis, les 12 disciples ou les apôtres, si on veut. Et puis, ceux qui étaient proches du Seigneur Jésus avaient des privilèges. Et ce qu'on vient de lire ici, certainement, c'est un des privilèges, c'est simplement d'avoir des explications pour les paraboles que Jésus expliquait. Imaginez, Jésus prêche, et puis là, après la prédication, vous faites partie des 12. Et puis là, Jésus dit, « OK, venez avec moi, les boys. » Et puis là, Jésus sort son divan, là. Et puis là, les 12 sont là. Et puis là, il commence à poser des questions. Les apôtres posent des questions au Seigneur Jésus. Et là, Jésus explique. Et puis, il partage les secrets du royaume. Et ces personnes-là, on pouvait les voir, les considérer comme étant les personnes dans le cercle intime du Seigneur ou dans le cercle privilégié du Seigneur Jésus. C'était un privilège, certainement. Imaginez-vous. C'est un privilège de faire partie de l'entourage du Seigneur Jésus. Vous me suivez? Il y a deux catégories de personnes aujourd'hui. Il y a la foule, encore la foule est là, et il y a également les disciples, les serviteurs de Jésus, qui sont dans son cercle intime. Et là, venez avec moi dans Jean chapitre 12 et le verset 26. Jean chapitre 12 et le verset 26. Ici, le Seigneur Jésus révèle une autre chose concernant le cercle privilégié qu'on peut avoir avec lui. Jean 12, verset 26. Il est écrit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Je vais relire. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc ici, on voit que Jésus est en train de dire, je vais vous relire, c'est un texte important, si quelqu'un me sert, on parle ici de service, si quelqu'un me sert. Si quelqu'un me sert, bien, il va se retrouver dans la compagnie du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, si on est attitré comme étant le serviteur du Seigneur Jésus, bien on va le suivre pour être à son service. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un cherche Jésus, et là, il voit l'apôtre Jean, par exemple. Ah, Jean est là, Jésus ne doit pas être loin parce que Jean est toujours à côté de Jésus pour le servir. Et puis là, on s'approche de Jean, et puis oui, certainement Jésus est là. Parce qu'on lit ici, « Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Parce que le serviteur est toujours proche de son maître. Amen. Un bonus en plus. Là, vous dites, « Ah, si je veux être dans la compagnie du Seigneur Jésus, je dois le servir. » Mais là, dans le même verset, il y a un bonus. « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Donc, le Père va vous honorer si vous êtes au service du Fils. Amen. Donc, deux catégories de gens. Il y a des gens qui sont dans la foule et il y a ceux dans le cercle intime ou le cercle privilégié du Seigneur Jésus. Et ce matin, ce que j'avais à cœur, c'est de vous partager comment accéder à ce cercle-là, comment entrer dans ce cercle privilégié du Seigneur Jésus. Et je peux juste vous partager un témoignage, juste très, très simple pour vous aider à comprendre un peu. Ma grand-mère, Grandma Spinks, qui habitait à Toronto, bien, elle a été élevée d'une façon un petit peu différente. Elle ne se voyait pas très riche, mais en fait, j'ai regardé les photos et je voyais la photo de ma grand-mère Spinks. Elle faisait de la luge. Elle allait glisser en manteau de fourrure à l'époque. Vous comprenez, les manteaux de fourrure, un manteau de vison. Combien d'enfants vous connaissez qui vont glisser sur la neige en manteau de vison? C'est assez rare de nos jours. Je voyais ça, des photos de Grandma Spinks en manteau de vison. Il y avait dans sa maison deux servantes qui habitaient dans la maison. Et puis, elle a été élevée par une nounou. Vous connaissez c'est quoi ce nounou? Donc, Grandma Spinks a été élevée, comme on peut dire, dans la ouate. Dans la ouate. Elle était vraiment bien enrobée. Elle a grandi dans le luxe. Et puis, elle était dans une famille assez fortunée. Puis je regardais ces photos, puis j'ai dit, « Mon Dieu, grandma, vous étiez très riche à l'époque. »« Oh non, 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 on n'était pas riches, nous. On était juste ordinaire. » J'ai dit, « Ben, j'en connais pas beaucoup, moi, qui ont deux servantes qui habitent dans la maison et une nounou à votre service. » Ceci dit, il y a des personnes dans cette maison-là qui ont eu des privilèges à cause ils étaient des serviteurs dans la maison. De un, les servantes ont eu le privilège d'habiter dans une belle maison luxueuse. Ça, c'était un des privilèges. Et puis, la nounou de ma grand-mère a eu le plus grand privilège au monde. Et c'était de conduire ma grand-mère au Seigneur Jésus. La nounou de ma grand-mère était une chrétienne, un enfant de Dieu qui aimait Jésus, et elle a élevé ma grand-mère dans les voies de Dieu. Ça, c'est un privilège. Cette femme-là, qui était au service de la famille Small, mais pourtant, cette famille-là, même, elle était rémunérée certainement pour son travail, mais elle va recevoir une plus grande récompense au ciel parce qu'elle était au service de Jésus. Elle servait Jésus en servant cette famille et elle a pu conduire cette petite fille-là qui a grandi dans ses soins, elle a pu la conduire au Seigneur Jésus. Et des fois, on peut se dire, mais comment faire pour avoir telle faveur ou tel privilège? C'est en servant. En s'abaissant et en étant un serviteur, c'est là où la porte de la faveur de Dieu s'ouvre devant nous. C'est là où on entre dans le cercle privilégié du Seigneur Jésus. Ceci dit, il faut faire attention, parce que des fois, il y a des gens qui veulent servir pour accéder à certains privilèges, et Dieu connaît toujours nos cœurs. Si on veut vraiment servir le Seigneur Jésus, parce que nous aimons Dieu, et nous aimons les hommes, nous voulons aimer autour de nous. Si on le fait avec un cœur pur, Dieu le voit et Dieu va bénir ce service-là. Mais si on le fait avec un motif impur, et c'est pour bénéficier personnellement d'une relation, Dieu le voit et puis la bénédiction ne sera jamais récoltée. En fait, on peut passer toute notre vie à servir et ne jamais récolter de bénédiction. Vous allez être surpris, parce que si on sert avec un mauvais cœur, un mauvais motif, Dieu connaît toutes choses. Donc, ce qu'on veut faire, on veut entrer dans ce cercle privilégié du Seigneur pour être dans sa présence. Mais la façon d'y accéder, c'est par le service. Amen. Gloire à Dieu. Et là, dans Jean 15, versets 14 et 15, vous pouvez venir avec moi. Jean 15, versets 14 et le verset 15. Nous lisons ici un texte. Vous savez, le Seigneur Jésus, il nous aime, Dieu nous aime, et puis il veut nous élever un statut vraiment où on est proche de son cœur. Il a dit, « Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Voyez-vous, lorsqu'on est un serviteur de Dieu, et ce qu'on vit, c'est que, puisqu'on est toujours avec le Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu nous révèle les secrets du cœur du Père. Parce qu'on est là au service de Dieu. On est là, on est en train de donner de notre vie, de notre temps. Et comme nous semons de notre vie, on récolte. Et le Seigneur Jésus et nous, on a une bonne relation intime. On est un intime de Dieu. Et c'est là où on peut même recevoir le titre d'ami. Telle personne est mon ami, comme Abraham, l'ami de Dieu. Aimeriez-vous être l'ami de Dieu? Pour être l'ami de Dieu, il faut être un serviteur de Dieu. Il faut être au service de Dieu. Amen. Et puis, même si on est un ami de Dieu, on est un enfant de Dieu, on peut choisir d'être un serviteur de Dieu avec notre vie. Et il y a plusieurs personnes pourtant qui ne passent jamais qui n'arrive jamais à ce statut-là d'être vraiment un serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai la foi que vous allez croire ce message et l'Esprit de Dieu va vous accorder une révélation. Amen. Gloire à Dieu. Je vais même prier pour vous maintenant pour ça. Père éternel, je veux juste te remercier pour l'Esprit de révélation dans cette place. Je te remercie, Seigneur Dieu, que mes frères et mes sœurs vont recevoir une révélation nouvelle concernant le service. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Venez avec moi maintenant dans Deutéronome 10, verset 12. La porte du privilège et de l'accès VIP du Seigneur Jésus. Aimeriez-vous avoir une passe? On vous donne une carte d'invitation. Jésus se retrouve dans tel salon, le salon VIP de la gloire. Vous êtes invité personnellement. présentez votre carte et puis vous arrivez dans le salon et puis Jésus va prendre un café avec vous. Aimeriez-vous ça? Je vais vous montrer comment faire. Deutéronome 10, verset 12, dans la Bible du Sommeur. Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu te relèves en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être. Écoutez bien ceci. La majorité souhaite accéder au leadership. La grande majorité des gens dans nos églises souhaitent toujours accéder au leadership, mais peu veulent devenir un serviteur. Pourtant, le service est la porte du leadership. Je pourrais poser des questions à droite et à gauche et plusieurs personnes diraient, moi je veux devenir un leader, je veux devenir un leader. Mais comprenez ceci, la porte du leadership, c'est le service. C'est vraiment ça, c'est le service. Lorsque j'entre dans le service, c'est là où je peux côtoyer le roi des rois. J'ai une carte d'invitation. Et au début, peut-être, ça va être, avant de prendre le café avec Jésus, ça va être lui apporter une tasse de café. Lui apporter une tasse de café et dire, Jésus, est-ce que tu as besoin du sucre et un peu de crème là-dedans? Et puis Jésus va dire, ben non, j'aime mieux du sirop d'érable, Pasteur Michael. J'aime mieux du sirop d'érable. Ce que je vous dis ici comme illustration, lorsqu'on est au service du Seigneur Jésus, on peut bénéficier de sa présence. On est là, puis quelqu'un va vous dire, oui, mais tu es là juste en tant que serviteur. Oui, je suis là en tant que serviteur, mais toi, tu n'es même pas là parce que tu ne veux pas le servir. Moi, je peux bénéficier de sa présence. Je peux bénéficier de son onction. Comme je suis là en train de le servir, je suis en train de recevoir. Et l'autre fois, j'avais juste mal dans le dos, et puis Jésus le savait. Et puis il me dit, ah, je te guéris maintenant. Et puis ma guérison est arrivée. Vous savez, le fait de côtoyer Jésus, il y a des bénéfices. Mais pourquoi côtoyer Jésus? Pour les bénéfices? Non, pas Jésus. Il y a des yeux rayons X. Il connaît ce que vous avez dans le cœur. Si c'est pour les bénéfices, Dieu le sait. Mais si vous le faites parce que vous l'aimez, et puis vous lui apportez sa tasse de café par amour et par révérence, voici Seigneur Jésus. Je vous parle de café. Je suis certain que Jésus ne boit pas de café. Peut-être que oui. Mais je vous donne ça comme une illustration simple. Quand on est au service de Jésus, on peut bénéficier de sa présence. Et c'est ça la chose la plus importante dans nos vies. Amen. Donc, la majorité souhaite accéder au leadership. Je vais prier, je veux devenir un leader, Seigneur, je veux devenir un leader. Mais peu veulent devenir un serviteur. C'est rare qu'on entend les gens dire, Seigneur, je veux être un serviteur, je veux trouver une place dans mon église locale où je peux servir. Seigneur, je veux juste servir. Non. Je veux devenir un leader. Je veux devenir un quelqu'un, Seigneur. C'est souvent ça. Mais là, Dieu nous invite à passer par la porte du service. Et en fait, on va demeurer au service de Dieu toute notre vie. Il n'y a jamais de graduation. On arrive dans le service et on devient un serviteur de Dieu. Et comme on est un serviteur de Dieu, c'est là où l'onction du service vient sur notre vie. Et c'est seulement là où l'onction du leadership va se manifester. Comprenez ceci, parce qu'il y a des gens qui disent, « Mais moi, je veux devenir un serviteur de Dieu. Je veux prêcher dimanche prochain. » J'ai eu des gens comme ça. J'étais au restaurant, une dame me dit, « Pasteur, moi, j'aimerais ça prêcher dimanche prochain. » J'ai dit, « Ah, ben, gloire à Dieu. Je suis content pour ton désir. » Plusieurs personnes veulent le micro, mais très peu veulent l'aspirateur. Hallelujah! Oh, c'est ouin, là, tout d'un coup. L'importance capitale du service selon le royaume. Êtes-vous prêts? Je vous enseigne des choses du royaume de Dieu en ce moment. Puis vous dites, ben là, je ne sens pas des frissons, là, Pasteur Joël, tu parles de servir. Ma vie est assez occupée comme ça. Mais voulez-vous accéder à plus dans vos vies? Certaines personnes disent, ben moi, je veux vivre plus avec Dieu. Plus avec Dieu. Et là, quand on leur dit comment y accéder, ben, c'est pas ça que ça me tente, là. C'est pas ça que je veux vraiment. Mais le plus de Dieu est lorsque nous recevons des choses, des fois, qui sont différentes, qu'on a besoin d'entendre. Bon, venez avec moi maintenant dans Marc 10, versets 43 à 45. Marc 10, 43 et le verset 45. Gloire à Dieu, ma femme m'a exhorté, « Tu prends ton temps. » Je vais prendre mon temps. J'avais environ 10 pages de notes. Et là, ma femme m'a exhorté. Elle dit, fais une série, mon mari. Donc, je vais essayer de faire ça lentement pour vous aider à tout recevoir. Mais je suis convaincu, si vous croyez ce que je vous dis, vous allez vivre des choses différentes en 2015. Des choses différentes. Et la joie de Dieu va s'installer dans vos vies comme jamais auparavant. Parce que si on passe par une porte nouvelle ensemble, puis on va vivre encore plus la présence de Dieu, on va rejoindre encore plus de personnes avec le message que Jésus les aime, bien, gloire à Dieu, on a besoin d'avoir la mentalité du royaume dans cette maison. Gloire à Dieu. La mentalité du royaume. Si vous dites, ben moi, j'ai déjà la mentalité du royaume, moi, pasteur, là, moi, je l'ai, la mentalité du royaume. Bien, soyez une influence. Venez contribuer ce que vous connaissez. Amen. Venez contribuer ce que vous avez comme révélation dans la maison. Venez contribuer votre influence. Amen. Bon, l'importance capitale du service selon le royaume. Dans Marc 10, verset 43, il est écrit, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir. Jésus n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus lui-même est venu ici sur cette terre, pas pour venir recevoir et se faire servir, mais il est venu pour donner sa vie pour servir. Il est venu pour servir. Le croyez-vous ça? Êtes-vous un disciple du Seigneur Jésus? Si vous êtes un disciple du Seigneur Jésus, vous êtes censé être comme lui. Vous êtes censé être semblable comme lui. Semblable à lui. Amen? Vous comprenez? Si vous êtes un disciple du Seigneur Jésus, on devrait avoir une copie conforme avec Jésus. Jésus est dans la parole, on le voit, on lit, et quand on voit votre vie, oh, c'est la même chose. Copie conforme. Disciple. On est un disciple, on est à l'école de Jésus, et tout ce qu'il nous dit de faire, on le fait. On a sa vision des choses, sa mentalité. Hallelujah, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Donc, si quelqu'un veut être grand, voulez-vous être grand dans le royaume de Dieu? Voulez-vous être grand dans le royaume de Dieu? OK. Et puis ici, voulez-vous être grand dans le royaume de Dieu? OK. Bien là, Dieu nous dit, qu'il soit votre serviteur. Qui veut être un serviteur? Oh, oh, ça diminue d'intensité. OK. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Qui veut être un esclave ici dans cette maison? Oh, j'ai tellement le goût d'être un esclave pour Jésus. Alléluia. Car le Fils n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. L'ADN de Jésus et du royaume de Dieu, c'est un cœur de serviteur. Je pourrais vous donner des noms ce matin, des gens dans cette maison qui sont vraiment des véritables serviteurs, qui sont là, on leur demande quelque chose, puis ils vont au-delà de nos attentes. On leur demande un service. Est-ce que tu pourrais faire ceci ou cela? Il n'y a pas de problème, pas de problème. Et puis, il y en a beaucoup que je connais et je dis gloire à Dieu pour ces personnes-là. Parce qu'ils ont, comme on dit en québécois, la main sur le cœur, le cœur sur la main. Je l'ai eu. Le cœur sur la main. Ils veulent donner. Ils sont prêts à être un serviteur. Ils se rendent disponibles pour la maison de Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Bien, dans le royaume de Dieu, quand vous allez entrer au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, vous allez peut-être rencontrer la personne qui était là, qui était à votre service sur la terre, mais pendant l'éternité, vous allez le servir. Alléluia! Ah oui, oui, oui! Ah oui, celui qui aspirait le tapis avant que j'arrive ici dimanche matin. On pouvait dire, ah bien, la personne était là pour nous servir, ah bien, c'est gentil, mais peut-être cette personne-là va être au-dessus de vous au ciel. Parce qu'il y a des rangs différents au ciel, savez-vous? Des rangs de service, vous avez été fidèle dans les petites choses, Dieu va vous confier des plus grandes choses. Dieu voit tout, et Dieu voit notre cœur, et Dieu voit notre service, et il n'oublie rien. Il prend tout en note. Et même quand on le fait en secret, quand il n'y a pas un chat qui le sait, il n'y a personne qui sait ce qu'on fait pour Dieu, on le fait pour l'honorer, Dieu le voit. Et plus tard, il y a des récompenses qui vous attendent, mais pas juste plus tard, même aujourd'hui. Mais on continue. Donc, si vous voulez être grand dans le royaume, mais premièrement, il faut croire que le royaume de Dieu existe, il faut croire qu'on a une place au ciel. Si on est tellement terre à terre et notre vision, c'est juste dans le terrestre, on ne pense même pas au ciel, bien, on ne prépare pas notre retraite céleste. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais si on prépare notre retraite céleste, on est un serviteur aujourd'hui. Gloire à Dieu. Les valeurs du royaume sont encore à l'envers de celui du monde. Bon, vous dites, OK, ben c'est bien. Moi, je veux savoir c'est quoi un serviteur. Voulez-vous savoir? Quelqu'un pose la question, mais c'est quoi ça, un serviteur? Je vais vous dire. Venez avec moi dans Jean 17, verset 12. Vous savez que Jésus, dans la parole de Dieu, dans Ésaïe, nous lisons qu'il était le serviteur de Dieu. Jésus est venu en tant que serviteur. On pourrait lire plusieurs passages, mais on va passer ce matin. Mais croyez-moi, Jésus était le serviteur de Dieu. Le croyez-vous? Lorsqu'il marchait, Jésus est un serviteur, rempli d'humilité. Amen. Concernant Jésus, on va juste voir une chose qu'on peut souligner ce matin. Jean 17, verset 12. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Jésus parle au Père. « Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition afin que l'Écriture fût accomplie. » Ce matin, ce que je veux souligner dans ce texte-là, remarquez bien, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » J'ai gardé ce que tu m'as donné. Jésus est un serviteur et une des façons que Jésus a servi le Père, c'est qu'il gardait les enfants de Dieu. Il gardait. Jésus est un gardien. Comprenez? Comme nos enfants, des fois, comme ma fille Floramir a commencé à garder le petit Louis, le beau. C'est vraiment une gardienne oint du Saint-Esprit, avec un petit bébé oint du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Mais sa responsabilité, c'est de garder le petit Louis. Lorsqu'elle est une gardienne, hein? Elle a suivi son cours de gardiennage et puis, hallelujah, elle garde, puis elle est bien payée par pasteur Michael. Hallelujah! Et elle a donné sa dîme, pasteur Michael. Gloire à Dieu. Ben oui, je ne dirai pas, mais il ne faut pas que je le dise parce que là, tout le monde va appeler pour garder Louis. Là. On veut garder sa job. Mais un serviteur, c'est quelqu'un qui prend soin, qui garde. Un serviteur. Quelqu'un d'attentionné, qui est préoccupé. Comme ma Floramée, si elle garde le petit Louis, puis il se promène, puis il arrive proche des escaliers, bien, sa responsabilité, c'est d'aller prendre soin de lui, puis l'arracher du danger. Amen. Donc, c'est comme ça. Dieu nous garde, Jésus a gardé tout ce que Dieu, le Père, lui a donné. Écoutez bien ceci, dans Proverbe 27, verset 18, ça dit, « Celui qui soigne son figuier jouira de ses fruits, et qui prend soin de son maître sera honoré. » Donc, celui qui prend soin de son maître sera honoré. Celui qui garde son maître, dans Louis II, celui qui garde son maître sera honoré. Donc, c'est ça, le serviteur, c'est quelqu'un qui est là pour servir, prendre soin. Il va prendre soin de quelque chose pour le roi Jésus. Parce que nous parlons du royaume de Dieu et présentement, nous sommes les deux pieds sur terre, mais nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre et nous sommes des représentants du Seigneur Jésus, le roi, et nous sommes à son service. Et lorsque nous travaillons dans notre église locale, nous sommes là en train de servir le roi des rois et nous faisons tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons au nom de Jésus. Nous le faisons ce matin comme si c'était pour Jésus et parce que ça l'est vraiment. Lorsque quelqu'un aspire le tapis, il fait pour honorer Jésus. C'est vrai. Il va le faire pour honorer Jésus. Et puis, ma sœur Caroline Roux me disait que dans son église en Afrique, les gens avaient des sections du tapis où ils devaient se diviser dans l'église pour s'assurer que tout le monde pouvait travailler dans l'église. Parce que tout le monde voulait servir dans l'église. Et puis, ben, ça, c'est ma section. C'est ça que moi, je vais aspirer. Toi, c'est ta section. Parce que les gens veulent tellement servir qu'il se sépare le travail pour s'assurer que chaque personne dans l'Église travaille pour Dieu. C'est un principe spirituel. Il y a des églises aux États-Unis, des dentistes, des médecins sont dans la salle de bain et puis sont là. Et puis, leur travail, c'est de donner des serviettes pour lorsqu'on s'est lavé les mains. Donc, ils vont remettre des serviettes pour justement... Puis pourquoi je vous dis des médecins? C'est parce que ces gens-là veulent servir Dieu. Ils vont peut-être pas faire une chirurgie dimanche matin, mais ils peuvent donner une serviette à quelqu'un au nom de Jésus pour travailler pour le royaume de Dieu. Il y a toute une mentalité du royaume. Lorsqu'on commence à servir Dieu dans notre église, on commence à vivre la présence de Dieu de plus en plus. Et comme on sert, l'onction du service est sur notre vie. Et puis, c'est ce service-là qui ouvre des portes. Moi, quand on me posait la question, mais comment tu as fait pour avoir la faveur ou certains privilèges dans ta vie? La seule chose que j'ai fait, c'était servir Dieu. Servir Dieu là où Dieu m'appelait, au moment où Dieu m'appelait. C'était très simple. En fait, je n'ai jamais manipulé les gens pour essayer d'accéder à telle ou telle chose. C'était pas mon cœur, c'était pas « OK, je dois faire ceci pour accéder à ça ». C'était jamais même dans mon idée, dans ma vision. Mon cœur, c'était « Je veux servir Dieu ». Vous comprenez? Donc, si vous voulez servir Dieu, vous allez trouver quelque chose que vous pouvez faire. Mais il y a des gens qui trouvent des raisons pour s'excuser du service. En fait, ils disent bien, plein de raisons, et je ne passerai pas le temps pour vous énumérer des raisons pourquoi ils ne veulent pas servir, mais au fin fond, c'est une question de cœur, parce qu'ils ne comprennent pas l'importance du service. On n'a pas eu la révélation que c'est important. On s'imagine que c'est une chose vraiment qui nous diminue. Au contraire, si nous croyons la Bible, le plus grand parmi nous sera votre serviteur. Vous comprenez? C'est toute une autre façon de penser. Mais c'est la pensée du royaume. Il faut changer nos mentalités. Et ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai eu accès à des grandes personnalités dans le monde de la télévision chrétienne. Mais pourquoi? Je parlais de ça avec ma femme hier. On a passé une fois une soirée avec Jerry Savelle. Vous connaissez peut-être? Jerry Savelle, peut-être pas. Mais c'est quelqu'un très connu. On était là dans le salon de la télé. C'est une chambre verte qu'on appelle Green Room. Et puis, ça s'est donné que, bon, on était invité pour être là parce que je travaillais pour le président de l'antenne de TV à son service. Et puis, j'étais là juste pour servir Dr. Dewart. Et puis, là, Dr. Dewart parlait à Jerry Savelle de la pêche. Il était là, puis il racontait ses histoires de pêche. Et Mathilde et moi, on était là, puis on voyait que Dr. Savelle n'était pas vraiment intéressé. Il semblait pas mal indifférent, en fait. Puis là, ma femme était là, elle dit, « Et vous, Dr. Savelle, dites-nous ce que vous aimez dans la vie. » Puis il dit, « Ah, ben moi, ce que j'aime, c'est ma famille. » Et puis là, il a sorti son portefeuille, plein de photos. Puis là, il nous a partagé des histoires sur sa famille. Puis là, ma femme s'est assise sur le divan. Puis là, pendant 2 heures, on entend ses histoires de sa famille. Pourquoi? On était là au service de quelqu'un et puis Dieu a ouvert des portes. Mais on n'a jamais eu l'idée, ah, ben on va faire ci pour ça. Puis, non, c'était des motifs purs. Mais vous comprenez, il y a d'autres personnes qu'on a servies aussi. Moi, je me souviens, quand j'étais là-bas à l'antenne de TV, on m'avait demandé, pouvez-vous aller chercher un orateur? Je ne vous dirai pas son nom. Un orateur à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport et puis l'orateur, le prédicateur s'imaginait des choses, je ne vais même pas vous dire, mais il me traitait vraiment comme étant une personne inférieure, une personne vraiment comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? J'étais un moins que rien pour lui. Et puis, c'était vraiment clair, il dégageait l'arrogance, il dégageait, toi, tu es juste un serviteur. Et puis, je voyais qu'il n'y avait pas la pensée du royaume là-dessus, c'était trop bizarre. Mais c'est ça, c'était comme son attitude envers moi, c'était vraiment pas bien. J'aurais pu dire, « Hey, je suis ici, puis ça, tu sais pas, tu t'informes pas sur ma personne, je suis qui, tu sais pas du tout, là. Je suis pas juste ici. » Mais non, on dit rien, on fait juste servir. Mais vous voyez, ça, c'était une sorte de personne. Mais là, on a vu, il n'y avait pas la révélation du royaume concernant le service, mais quelqu'un d'autre. Là, je vais vous dire son nom parce que je peux parler en bien. Steve Hill, l'évangéliste Steve Hill, qui a été utilisé puissamment pour un grand réveil de Dieu aux États-Unis. Je vais chercher à l'aéroport, à Calgary, on habitait à Lethbridge, ça prenait 2 heures et demie d'auto pour aller chercher. Donc, j'ai passé 2 heures et demie avec lui et son épouse. Et puis, il me traitait vraiment comme quelqu'un qui était égal. Et puis là, je posais des questions, puis là, il commence à me raconter son témoignage au complet. Il me racontait son témoignage, ce qu'il avait vécu. Et moi, à l'époque, je peux vous dire, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas que j'avais dans mon auto un grand homme de Dieu. Je ne savais pas qu'il avait eu des réunions massives avec des milliers de personnes. Puis je ne connaissais rien sur lui, vraiment. Moi, j'ai été là, le recevoir. L'antenne de TV m'envoyait en tant que pasteur pour recevoir. Mais je ne me suis jamais présenté comme étant pasteur ou animateur d'émissions de TV. Je m'en allais là en tant que serviteur. Et Dieu, des fois, va vous demander de ne rien dire. Faites pas votre promotion. Ce n'est pas important, ça. C'est que j'ai pu recevoir son histoire, il me raconte tout ça. Et là, je me suis même permis, je lui ai posé des questions théologiques sur certaines choses en rapport avec ce qu'il me disait. Et puis, j'ai pu bénéficier de son onction en étant un serviteur, en allant chercher à l'aéroport, tout simplement. Vous voyez, il y a une bénédiction dans le service. Il y a des gens qui ont la révélation du service qui vont bien vous traiter. Et puis, cet homme-là m'a traité comme si j'étais un roi. me traitait comme si j'étais un roi. Il me donnait de l'attention. Un autre qui m'a béni, c'est Sid Roth. Peut-être vous connaissez Sid Roth. Cet homme-là, Sid Roth, super gentil. J'étais pour le passer en entrevue à télévision. Et là, on passe toujours dans une petite chambre verte, green room qu'on appelle. Et puis, habituellement, on prend les questions qu'on va discuter à l'émission. On pose des questions à l'avance pour que la personne se prépare. Puis la personne peut nous dire, non, je me sens pas vraiment à l'aise avec telle question ou non. On fait ça comme politesse. Et là, je reçois Sid Roth dans la chambre, green room, dans la pièce. Et puis là, je lui dis, on va regarder ensemble un peu les questions. Il dit, non, ça m'intéresse pas. Et il dit, je veux savoir, as-tu rencontré le Saint-Esprit? As-tu vécu une touche avec le Saint-Esprit? C'est ça que je veux savoir. Puis là, j'ai dit, ben, je venais juste de vivre ma visitation. Sauf que là, j'étais assis, j'ai dit, ben oui, j'ai vécu quelque chose. Tell me about it. Puis là, si vous connaissez Sid Roth, c'est quelqu'un d'assez intense, là. Et puis là, je lui raconte ce que j'ai vécu. Puis là, lui, c'était une personne comme ça, un serviteur de Dieu, qui n'avait pas oublié qu'il était un serviteur de Dieu. Et puis, il honorait également des serviteurs de Dieu. Il y avait l'humilité dans sa vie. Puis c'est merveilleux, ça. Des gens humbles, des gens qui aiment Dieu, qui ne sont pas élevés selon leur propre pensée. Alléluia. Bon, c'est quoi un serviteur? C'est quelqu'un qui va prendre soin. Qui va prendre soin. Quelqu'un intéressé et attentionné. Quelqu'un qui prend soin du royaume de Dieu. C'est simple, hein? Être un serviteur, ça commence dans le cœur. Un serviteur, ça commence dans le cœur. Donc, si, admettons, votre responsable de département vous demande, par exemple, est-ce que tu pourrais aller nous chercher du café pour notre rencontre qu'on va avoir? On va être dans telle pièce, on aimerait savoir du café. Et puis, si votre réaction, c'est, ben oui, je peux aller. Moi, chez Tim Hortons, aller chercher des cafés. Je vais même prendre votre demande, votre requête, vos précisions, deux cafés, un sucre, puis vous prenez tout ça en note, puis vous allez de bon cœur, puis vous allez au Tim Hortons de bonne humeur, puis les gens vous voient là, puis, hey, cette personne-là est gentille, c'est pas un air de bœuf. Oh, mais là, c'est moi qui ai pris avec ça. Cette affaire-là, là, c'est tout le temps moi, là. La personne peut avoir une mauvaise attitude, puis leur revenir, bon, tiens ton café. C'est beau, là? T'es content? Merci. Ça peut être comme ça, où la personne m'a demandé d'aller chercher du café pour les serviteurs de Dieu. Oh, les serviteurs de Dieu se rencontrent pour discuter les choses du royaume de Dieu. Je travaille pour le roi des rois. Je vais aller chez Tim Hortons. Je vais aller chercher du café, sachant que je suis dans une mission divine de café. Hallelujah! Je m'en vais chez Tim Hortons dans l'onction du Saint-Esprit. Je commande le café et j'arrive dans la salle de conférence avec le plateau de café. Et puis, là, quelqu'un dit, « Ah, il y a beaucoup trop de sucre dans mon café. » Mais pourtant, c'est ça que tu avais dit, c'est ça que j'ai dit. Regarde, là, tu l'avais dit. La personne peut penser comme ça. Ou un bon cœur de serviteur qui va au-delà. « Ah, ben, mon frère, ma sœur, est-ce que tu aimerais que je retourne? Ça va me faire plaisir, ça ne me dérange pas du tout. » Non, 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 non. La personne peut dire, ah, j'insiste, je vais aller te chercher un autre café. Et là, la personne arrive avec un autre café. Et là, la personne va au-delà. Elle prend son ministère, son service au sérieux parce qu'elle le fait au nom de Jésus. Alléluia. OK. Sentez-vous, là, votre chaise en train de bouger, là? Il y a quelque chose qui se passe en vous, là? Oh, le service... En Amérique du Nord, on ne respecte pas trop le service. Dans le royaume de Dieu, le service, c'est quelque chose d'important. Et vous verrez les récompenses. Je pourrais vous donner des enseignements, je ne prendrai pas le temps aujourd'hui, mais les récompenses au ciel pour les serviteurs de Dieu. Et des récompenses au ciel pour les serviteurs de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Bon, là, il me reste 10 minutes. J'ai 10 qualités requises du véritable serviteur de Dieu. On commence?
Oui.
J'aurai pas le temps. J'ai 10 qualités, j'aurai pas le temps de développer, mais vous avez besoin de revenir dimanche prochain. Dites à votre voisin, reviens dimanche prochain. OK. Je vous donne quelques qualités. Êtes-vous prêts? Je vais vous donner quelques qualités du serviteur de Dieu. Si vous voulez donner votre CV, vous avez besoin de voir la description de tâche, là. Ce que le roi Jésus recherche comme serviteur. Il veut embaucher cette année des serviteurs. Mais avez-vous le profil? On va voir ensemble. Première chose, la première qualité que le roi Jésus recherche en tant que serviteur dans son royaume. Venez avec moi dans le psaume 40 et le verset 9. Le psaume 40 et le verset 9. Le premier point, la première chose que le Seigneur Jésus recherche, il aura, le serviteur aura un cœur aimant. Un cœur aimant. Le psaume 40, verset 9 nous dit « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Je prends plaisir à faire ta volonté. Je prends plaisir. Dieu me demande de faire quelque chose. Bien, je suis vraiment heureux de le faire. Je prends plaisir à faire, à accomplir sa volonté. Peu importe ce que le Seigneur Jésus m'appelle à faire, je vais prendre plaisir. » Amen. Une personne que je peux vous dire que j'ai vu ça dans sa vie, notre sœur Evelyne Lebeau, elle servait dans le ministère de la jeunesse junior en semaine. Et puis, même si elle avait un très petit groupe, elle se préparait dans son enseignement. Et puis, elle donnait son enseignement comme si elle avait 1000 personnes. Parce que ma Flora May, lorsqu'elle revenait de ses temps de jeunesse junior, les cours qu'elle avait reçus la semaine, elle revenait vraiment encouragée, elle avait ses notes, tout ça, puis on pouvait discuter des choses qu'elle avait apprises avec notre sœur Evelyne. Mais pourtant, Evelyne aurait pu dire, hey, « Regarde là, j'aimerais avoir plus de personnes là, dans mon groupe, là, si je m'investis autant. » Mais pourtant, elle s'est investie, pas juste pour les jeunes qui étaient avec elle, mais elle s'est investie pour Jésus. Vous voyez, quand on s'investit parce qu'on travaille pour le roi des rois, on va travailler avec excellence. Tout ce qu'on va faire, ça va être avec excellence, avec un cœur qui veut servir Dieu, on veut honorer Dieu, et puis les personnes qu'on va servir, certainement vont en bénéficier, mais on le fait pour honorer notre Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il va avoir un cœur aimant. On va aimer ce que Dieu nous appelle à faire. Deuxième chose, la chose importante, là, la chose vraiment importante, il se rendra disponible pour le service. Un serviteur de Dieu se rendra disponible pour le service. Est-ce que ça fait du sens? Jésus vous appelle, on a besoin du café dans notre salle de conférence. Ben, c'est très bien, je vous souhaite d'avoir un bon café, moi j'ai pas le temps là. Peut-être appeler là Tim Hortons, peut-être ils font des livraisons, je sais pas là, mais j'ai pas le temps. J'ai une vie bien occupée moi. Moi, je suis vraiment important. Le serviteur que Dieu recherche, le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui se rend disponible. Dans Marc 10, 45, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus était prêt à donner sa vie. Sommes-nous prêts à donner du temps à Dieu? Alléluia! Si vous êtes dérangé en ce moment, pendant que je vous prêche, si vous êtes dérangé, en ce moment, mesurez le niveau de votre dérangement. Ce 1 à 10. Si c'est comme un 4, ben c'est pas si terrible. Si vous êtes à 8 et 9, là, j'ai vraiment hâte qu'il finisse, il a dit qu'il restait 10 minutes, il est mieux pas de dépasser parce que je suis tanné pas mal, là, je suis pas mal tanné. Si vous êtes 8, 9, 10, c'est parce que le message est vraiment pour vous.
Amen.
Alléluia! Le plus que vous êtes dérangé, le plus que le Seigneur est en train de vous parler, et Dieu, en fait, il veut vous inviter à vivre une promotion dans votre vie. Il veut que vous puissiez accéder à ce cercle de privilèges. Le monde vous dira, non, c'est pas un cercle important, ou non, il ne faut pas s'abaisser comme ça pour servir, parce que, regarde, notre mentalité, c'est ça, mais le royaume de Dieu et la mentalité du royaume, c'est tout autre chose. Donc, il aura un cœur aimant, il se rendra disponible pour le service. Oh mon Dieu, j'aurais aimé ça prendre 2 heures, mais il faut que j'arrête. Alléluia, qu'est-ce que je vais faire? Conclusion. Je vais vous lire un texte ici, et la semaine prochaine, on va poursuivre. C'est super important. Je vais vous donner juste des clés en terminant, juste pour vous aider. La philosophie du royaume pour le service. Le service éprouvera vos motifs véritables. Le service éprouvera vos motifs. S'il y a de l'orgueil en vous, alléluia, vous pourrez vous débarrasser de votre orgueil. Gloire à Dieu! Le service vous invitera à l'humilité. C'est une invitation à l'humilité. Dans Jacques 4, 10, la Bible nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Il y en a plusieurs qui disent « Mais j'aime pas ça de cette façon-là. Moi, je m'élève et j'abaisse les autres. » Je m'élève et j'abaisse les autres. Ça ne marche pas, ça. La façon que ça marche dans le royaume de Dieu, Dieu dit, humiliez-vous. Le mot que je veux souligner, c'est vous. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, on s'humilie devant le Seigneur. On veut servir nos frères, nos sœurs. On trouve une façon à quelque part. On doit servir le Seigneur. Et là, Dieu voit notre cœur de serviteur et notre amour pour lui et son royaume. Et Dieu dit, je veux élever cette personne-là. Et là, la personne est convoquée dans le cercle intime du privilège. Et la personne commence à rencontrer des personnes. Peut-être c'est même un rêve pour vous. Et là, la personne commence à bénéficier de toutes sortes de bénédictions de la part de Dieu. Et pourtant, pendant des années, j'ai essayé d'avoir ces bénédictions-là. Mais la porte pour y arriver, c'est toujours par le service. Toujours. Et voici une chose importante. L'onction du serviteur de Dieu se manifeste uniquement lorsqu'il est au service de Dieu. Je vais répéter. L'onction du serviteur de Dieu. Si vous dites, ben moi, je vais être un serviteur de Dieu, prêcher devant des foules, des stades olympiques. C'est vous, ça, là. Vous voulez prêcher devant un stade olympique, là. C'est ça, votre rêve. L'onction du serviteur de Dieu de Reinhard Bonnke. Vous connaissez Reinhard Bonnke, qui prêche devant 1 million, 2 millions? L'onction du serviteur de Dieu se manifeste uniquement lorsqu'il est au service de Dieu. On sert le Seigneur, l'onction du service vient. Et là, donc, le service est la porte et la certification du leadership véritable. Si Reinhard Bonnke, là, il passait le balai, puis il y avait des gens qui lui tapaient sur les nerfs, puis là, il prenait son balai, puis comme ça, puis il enfergeait le monde à l'église. Et là, Dieu va dire, il n'est pas certifié encore pour être mon serviteur au stade olympique. Pas encore certifié. Il doit travailler un petit peu sa personnalité. Mais là, il y a une petite madame qui arrive à l'église de Reinhard Bonnke, quand il était peut-être plus jeune. Il est en train de passer le balai. Puis une petite madame fatigante. Vous n'en connaissez pas, il n'en a pas vécu. Mais une petite madame fatigante. Puis là, il se rappelle, « Ah, oh, je suis en train de balayer pour Jésus en ce moment, pour le roi des rois. Je suis à mon poste. Hallelujah. Je suis en train de balayer dans l'onction du Saint-Esprit et je ressens la présence de Dieu même. » C'est vrai, ça. Pendant que je suis en train de balayer, je sens la présence de Dieu parce que je le fais au nom du roi des rois. Je suis dans une mission divine. Et là, tout d'un coup, Jésus le voit. Lui, il travaille. Il y a vraiment ce que je recherche comme serviteur. Il y a du monde fatiguant autour de lui. Il marche toujours dans l'amour. Une belle attitude. Pas chialeux, pas chigneux. Pas rebelle. Une bonne attitude. Maintenant, je veux qu'il me serve à un autre niveau. Et puis c'est comme ça, on est fidèle dans les petites choses. Dieu nous confie des plus grandes choses et des plus grandes. Et lorsqu'il avait reçu une prophétie, Reinhard Bonnke, je pense que c'est dans les années 70, il avait reçu la prophétie qu'il était pour prêcher devant 1 million de personnes. Puis à l'époque, il dit, il croyait même pas la prophétie. Il dit, c'était tellement glorieux, c'était comme, ben oui, bon, ça l'arrive, mais il croyait pas vraiment parce qu'il dit, mais comment même rassembler 1 million d'un seul coup? Mais en Afrique, c'était possible. Il a prêché devant 1 million, d'un seul coup. Ça a pris des années. Il était au service de Dieu, des années de temps. Donc, je me répète, l'onction du serviteur de Dieu se manifeste uniquement lorsqu'il est au service de Dieu. Mais si vous ne servez pas Dieu, est-ce que l'onction va venir sur votre oisivité? Non. Donc, le service est la porte et la certification du leadership véritable. Je termine avec ce verset, j'invite l'équipe de la louange à s'approcher maintenant. Exode 23, verset 25. « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Oh, il y a plein de bénédictions. J'ai juste fait le premier service du repas. J'ai écouté ma femme, je me suis soumis à ma femme. J'ai vraiment été lentement. Mais c'est tellement des choses importantes qu'on a besoin de comprendre et recevoir dans nos vies, frères et sœurs. Si vous pouvez vraiment croire ce que je suis en train de vous dire, votre vie va changer. Et les frustrations du ministère, là, vous, c'est merveilleux parce que les frustrations ne sont pas merveilleuses. Écoutez bien ceci. Quand on est frustré, c'est parce qu'on essaye par nos propres forces. On essaye. Mais quand on est dans le service de Dieu, ça l'arrive tout seul. Ça l'arrive tout seul. On sert le Seigneur, on fait quelque chose que Dieu nous appelle à faire. On arrive, on sert le Seigneur avec un bon cœur. L'onction de Dieu est sur nous. Puis après, Dieu nous conduit. Puis c'est toujours de gloire en gloire, de gloire en gloire. Amen. Je vais terminer avec un mot de prière. Amen. Et puis, j'aimerais ça vous inviter toute cette semaine de prier et demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce que ça se peut que tu m'appelles à faire quelque chose pour ton royaume? » Si Dieu dit, « Non, j'ai rien pour toi », ça veut dire que vous allez être le plus petit dans le royaume de Dieu. Ou pendant l'éternité. Mais ce que vous voulez devenir un grand dans son royaume, en le servant, parce qu'il en est digne. Père éternel, je viens devant toi, Saint, aujourd'hui. Je te remercie pour les principes du royaume que nous pouvons apprendre au niveau du service. Saint, je te remercie pour ce cercle intime, privilégié qu'on peut vivre, expérimenter. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce qu'on peut te côtoyer, on peut te connaître intimement. Seigneur, je prie pour un changement aujourd'hui de mentalité dans cette Église, qu'on puisse adopter tes lois spirituelles, qu'on puisse adopter ta vision des choses, qu'on puisse voir les choses comme toi. Alléluia, merci Seigneur Dieu. Seigneur, je veux te remercier parce que lorsque nous étions pécheurs, tu as tout fait, Seigneur Dieu, pour nous réconcilier avec toi. Je te remercie pour l'œuvre de la croix. Oui, tu es venu en tant que serviteur donner ta vie pour payer notre dette de péché. On était perdus sans toi, totalement perdus sans toi. Mais tu as quitté le ciel, tu as quitté la gloire du ciel et tu t'es donné en sacrifice sur la croix pour nous. Et pour cela, Seigneur Dieu, je veux te remercier. Je veux te remercier pour l'œuvre de la croix, pour ce grand service, toi le serviteur de Dieu. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour moi et pour chaque personne ici. Et pendant que vos têtes sont penchées, pendant que vos têtes sont penchées, vos yeux sont fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait dire à Jésus, « Je veux te donner ma vie et je veux te servir tous les jours de ma vie. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait de Jésus Seigneur de sa vie, qui dirait, « Aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus en tant que son serviteur. » S'il y a une ou plusieurs personnes, faites-le simplement en levant votre main et Dieu va vous voir, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ce matin qui diraient, « Je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui comme son serviteur. » et faire partie de sa famille. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ce matin? Puis pour les gens à la radio, sur Internet, on va prier ensemble. Est-ce qu'on peut tous prier maintenant ensemble, frères et sœurs, dans cette maison? Répétez après moi, comme si c'était vraiment pour vous. Répétez après moi, Père éternel, je te remercie pour le sacrifice de Jésus à la croix pour moi. Je reçois le don de la vie éternelle. Lave-moi de tous mes péchés. Je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre dans ton royaume. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière avec nous, contactez-nous en écrivant à info@evqmedia.com. info@evqmedia.com et ça va nous faire un grand plaisir de vous diriger vers une bonne église dans votre nation. Est-ce qu'on peut se lever maintenant et juste acclamer le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être appelés serviteurs de Dieu? Alléluia! Merci Seigneur Dieu! Merci pour ce privilège que nous avons, Seigneur. Nous pouvons te servir avec nous. Gloire à Dieu!
En terminant, j'aimerais juste vous remercier. J'ai demandé à ma femme cette semaine, vers la fin de la semaine, j'ai dit, est-ce que tu sens que notre vie est différente cette semaine? Elle me disait, oui, tu sens ça? J'ai dit, je pense que les gens de l'Église prient pour nous cette semaine. On a ressenti la différence. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais vous remercier tous ceux qui ont prié pour nous cette semaine. On a vécu ça beaucoup plus facilement et plus fun. Amen. Sauf que ça vous tente de renouveler. Renouveler. Amen. Gloire à Dieu. On vous remercie. Combien d'entre vous, vous êtes des citoyens du royaume de Dieu? Gloire à Dieu. Vous allez passer l'éternité dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Amen. On commence aujourd'hui. Trouvez une façon de bénir quelqu'un, être un ambassadeur de Christ en aimant quelqu'un en partant. Amen. On vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis. On déclare sur vos têtes le shalom de Dieu. Rien de manquant, rien de brisé. Soyez bénis et soyez une bénédiction. Amen. Gloire à Dieu.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.